Hallelujah. Thank you, Lord. Je suis très heureuse de partager ce message avec vous. Le Seigneur a commencé à me travailler par rapport à cela, fait qu'il était temps de voir certaines choses avec vous et de revoir d'autres choses avec vous. Et comme d'habitude, je pense que ça va aller très vite. Et au fur et à mesure que je prie, que j'écoute le Seigneur, ça s'allonge. En général, ça commence avec un message, après c'est OK, c'est une courte série de trois, après ça devient quatre, après cinq. Le Seigneur, bon, tu penses que c'est bon? Non, il y a encore un autre, OK. Ce qui est merveilleux, c'est de toujours demander à Dieu qu'est-ce que tu as envie de nous dire. C'est la raison pour laquelle, et je dis cela aussi pour les gens qui vont écouter cet enseignement, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui écoutent les enseignements dans le monde entier. Et ce que je dis ici à Bahaus, qui s'applique à notre église, s'applique aussi à eux dans leur église, ces gens dans leur église, n'est-ce pas? Et c'est que lorsque vous êtes dans une église où vous savez que le serviteur de Dieu écoute Dieu, comme c'est le cas à Bahaus.
Amen.
Amen. Il est important de faire attention à ce qui est enseigné dans votre église en priorité. Parce que ça, c'est une parole qui vous est destinée très particulièrement. Dieu a regardé son peuple et il a dit, voilà ce que je vais leur enseigner en ce moment parce qu'il voit, n'est-ce pas? Et je me rends compte à quel point la parole de Dieu nous est destinée particulièrement parce qu'il y a des gens qui se vexent parfois quand je prêche et qui pensent que je me suis en train de m'adresser directement à eux et parfois même des situations que je ne connais même pas. Des choses qui se passent dans leur vie, je ne suis pas au courant. Et parfois, je vois la tête des gens. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'elle a? Qui l'a vexé? Et après, je découvre que les gens se sont sentis... Et m'expliquent la situation, mais je ne savais pas. Ah bon? On vous avait pas dit? Non, pas du tout. Glory to God. Simplement pour vous dire que Dieu vous connaît. Et quand il dit qu'il faut enseigner sur quelque chose, ne fermez pas vos oreilles, Dieu, ça, je connais. Oh, je connais tous les versets que pasteur a cités. Non. Ouvrez vos cœurs. Parce que manifestement, il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir. Alléluia. Je veux dire, c'est prêt. Il y a des ingrédients, il y a des éléments qui nous permettent de vivre une vie de victoire. Les chrétiens entendent, dès qu'ils sont convertis, quelqu'un leur dit, tu vas avoir une vie de victoire, tu vas avoir amen. Et après, il commence la vie chrétienne et c'est excitant. Jésus nous aime. Jésus me réveille le matin, il me sourit. J'ai senti son sourire. Pasteur, Jésus me sourit. Il dit amen, Jésus te sourit. Et après, moi, c'est, oh, c'est pénible. Après, c'est, waouh, Jésus m'a encore souri. Et souvent, nous passons de haut en bas et ça peut durer des années. Et nous savons que Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Nous sommes chrétiens, nous sommes censés vivre dans la joie, dans la paix. On ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours quelque chose. Et on a l'impression que pourquoi la sœur, elle est plus bénie que moi? Ouais, elle n'a pas de problème, quoi. Naturellement, elle n'a pas de problème. Une fois, j'annonçais l'évangile à un de mes frères. Il me disait, oui, mais bon, de toute façon, toi, tu as toujours été optimiste. Même avant d'être chrétien, tu étais optimiste. Ce n'est pas une question d'optimisme, c'est la foi, c'est Dieu. Ouais, tu as toujours été optimiste. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils pensent que, ouais, mais lui, il est optimiste. Non. La vie, la justice, la paix et la joie qui caractérisent le royaume de Dieu, c'est la vie normale du chrétien. Et il y a une raison pour laquelle nous ne vivons pas cette vie normale. Au jour le jour. Il y a une raison pour laquelle nous ne vivons pas cette vie victorieuse. Pas uniquement pour que moi je sois bien, mais pour que Dieu puisse agir à travers moi. Il y a une raison pour laquelle la majorité des chrétiens n'évangélisent pas. La majorité des chrétiens n'ont pas la force et l'audace d'aller parler à quelqu'un de Jésus. La majorité des chrétiens ne prient pas pour les malades. La majorité des chrétiens n'ont jamais vu de miracle dans leur vie. Or, nous savons que Dieu fait des miracles. Nous le savons. Non seulement nous savons qu'il le fait, nous savons qu'il est censé le faire à travers nous. Et donc, puisque nous ne voyons pas cela, nous disons que oui, c'est que bon, c'est passé, ou ce n'est pas passé, mais c'est parce que mon pasteur n'en sait pas bien. Mais il y a des éléments essentiels dans nos vies. Et je peux vous assurer que si vous travaillez sur ces trois choses, votre vie sera révolutionnée. Donc, le titre de ce message, c'est PDF. Vous ne risquez pas de l'oublier. PDF. Le titre de cette série, c'est PDF. Penser, dire, faire. Quand vous agissez dans ces trois domaines, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, votre vie sera totalement changée. Et nous allons voir pourquoi. Parce que vous savez, il y a tellement de choses que l'on peut dire, que l'on peut enseigner, etc. Il y a beaucoup de principes de la parole. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la parole. Nous savons la guérison est importante, la délivrance est importante, annoncer l'évangile est important. Mais comment est-ce que nous arrivons réellement, nous, à faire ces choses? Il y a trois éléments. Ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et ça commence avec ce que nous pensons. Vous êtes dans Éphésiens 4, au verset 17. Aujourd'hui, je vais juste poser un fondement, courtement. On m'a fait savoir discrètement hier que le message était trop long. Et je leur ai dit, c'est parce que vous dormez. Donc, je continue jusqu'à ce que vous vous réveilliez. Et après, je répète ce que j'avais dit pendant que vous dormiez. Non, c'est une plaisanterie. Mais j'ai vu d'autres qui m'ont fait, mais non, pasteur, 3 heures d'enseignement, c'est pas beaucoup. Certains disent, oh Seigneur, quand on va avoir notre salle, qu'est-ce que ça va donner? Mais je sais que vous aimez la parole de Dieu.
Amen.
Dans l'église primitive, il passait des heures et 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 des heures à l'église à écouter la parole. Glory to God. Vous devez pouvoir passer au moins le temps que vous passez à regarder la télévision. Un film moyen dure combien de temps? 2 heures. OK. Un message moyen devrait durer 2 heures et demie, compte tenu de sa valeur supérieure. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Que Dieu bénisse Abba House. Éphésiens 4, verset 17. Nous nous préparons pour notre salle. Thank you, Lord. Faisons une pause déjeuner, nous reprenons. Ou plutôt, nous sommes jeunes. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment est-ce que les païens marchent? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, vous ne devez plus marcher selon la vanité de vos pensées. En d'autres termes, vous ne devez plus suivre des pensées vaines. Vous ne devez plus avoir des pensées vaines. Et vous ne devez plus vous laisser diriger par des pensées vaines. Ce qui veut dire aussi que nous sommes dirigés par des pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ce qui veut dire que nous n'avons plus l'intelligence obscurcie. C'est ce qui est extraordinaire avec Dieu. Dieu voit un potentiel extraordinaire dans son Église et dans chacun de nous. Et Dieu a fait toute une pile de promesses pour son Église et pour chacun de nous. Nous avons, comme je disais à quelqu'un hier, des ressources extraordinaires en Dieu. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si notre salon était rempli de cadeaux de Noël que nous refusons d'ouvrir parce qu'il va falloir que nous levions de notre lit pour y aller, que nous trouvions des ciseaux pour couper, pour pouvoir les ouvrir. Nous ne voulons pas surtout nous lever de notre lit, ni aller chercher les ciseaux pour couper et pour ouvrir les cadeaux. Donc, nous laissons les cadeaux qui ne sont pas ouverts et nous restons sur notre lit à nous plaindre du fait que nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, mais c'est déjà dans la boîte. Est-ce que vous me suivez? C'est déjà dans la boîte. C'est une décision de qualité que nous prenons pour dire je n'ai plus l'intelligence obscurcie, ce qui veut dire que j'ai accès à la révélation, ce qui veut dire que j'ai accès à la connaissance, ce qui veut dire que j'ai accès à la sagesse, j'ai accès au savoir, j'ai accès à la personne de Dieu, j'ai accès à tout ce que Dieu a pour ma vie. Mais il y a des choses que je dois faire pour vraiment bénéficier et utiliser cet accès. Est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais rester là à pleurnicher? Mais Dieu fait, donne-moi une dérogation. Tout le monde sait ce que c'est une dérogation. Les jeunes qui me regardent, c'est dans le dictionnaire, oui. Donne-moi une dérogation. La vie que Dieu a préparée pour chacun de nous est réellement une belle vie. C'est une belle vie. La belle vie, ce n'est pas la Mercedes du voisin. La belle vie, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. C'est « Je te bénirai dans toutes les entreprises ». C'est tout ce sur lequel tu vas mettre ta main, va réussir. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, la destinée de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui nous amène à devenir et à faire ce pour lequel il nous a amenés à l'existence. C'est libre des choses qui oppriment, qui dépriment, qui répriment les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont l'intelligence obscurcie. C'est une belle vie. Alléluia. Mais il nous dit ici qu'il ne faut plus marcher selon la vanité de nos pensées. En d'autres termes, les pensées de la personne qui ne connaît pas Christ ne représentent pas la volonté de Dieu. Et quand nous venons à Jésus, nos pensées non plus. La seule bonne pensée que nous avons eue réellement, c'est celle de dire « je dis oui à Jésus ». Et à partir de là, Dieu veut complètement changer nos pensées. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, les pensées ne changent pas. C'est exactement les mêmes pensées qu'avant de venir à Jésus. Nous sommes sauvés dans le sens où notre esprit est né de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais en réalité, notre âme, notre pensée, notre intelligence, nos émotions doivent être changées. Donc, dit, ne marchez plus selon la vanité de vos pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. En d'autres termes, ce n'est pas vous, ça. Donc, vous ne devez plus être comme ça. Tu n'es pas étrangère à la vie de Dieu.
Non.
Tu n'es pas étrangère à la vie de Dieu. Moi non plus, glory to God. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur, et ensuite ils continuent, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oh là 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 là. Mais vous, est-ce que vous avez envie de prêcher ce matin? Est-ce que vous pouvez vous adresser à votre voisin? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Ce n'est pas ainsi que tu as appris Christ.
Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller l'égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il faut encore s'en dépouiller. Ça ne disparaît pas automatiquement. Vous, on vous a dit, dépouillez-vous du vieil homme. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'intelligence, la pensée a besoin d'être déprogrammée et reprogrammée. C'est ainsi que nous nous dépouillons du vieil homme. Et à revêtir l'homme nouveau. Oh, 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 oh. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et tant que les chrétiens n'ont pas décidé à faire cela, ils vont continuer à vivre dans une injustice, en absence de sainteté qui produit le mensonge et le péché. Et c'est la raison pour laquelle les Français, mais c'est quand même, il est converti. Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il pense comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il agit comme ça? N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de l'intelligence. C'est la même pensée que nous avons dans Proverbe. Lorsqu'il nous a dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La parole de Dieu est en train de nous dire que c'est de l'intérieur de nous que viennent les choses qui vont déterminer notre bonheur ou notre malheur. Dieu a fait sa part. Et maintenant, il y a quelque chose que nous devons faire à l'intérieur de nous. Et j'aime beaucoup cette traduction. J'ai deux traductions en anglais ici que j'aime beaucoup. Il y a la traduction NCV qui dit « Be careful what you think because your thoughts run your life. » Fais attention à ce que tu... Oui, je vais traduire. Fais attention à ce que tu penses parce que tes pensées dirige ta vie. Il y a un autre qui dit, plus que toute autre chose, protège tes pensées, car ta vie découle de là. La chose majeure qui va conduire votre vie, déterminer ce que vous pouvez recevoir de Dieu, comment votre vie va manifester ou ne pas manifester la bonté de Dieu qui vous a déjà été libéré, c'est ce que vous faites avec vos pensées. Il y a des choses qui viennent d'une action souveraine, wow, de Dieu, wow, je ne m'y attendais pas du tout. Mais la plupart de ce que nous allons recevoir de Dieu, nous allons nous y attendre. Il va faire au-delà de ce que nous attendons, mais nous allons nous attendre à quelque chose parce que nous allons changer notre manière de penser pour nous mettre en accord avec lui. Dieu fonctionne avec des gens qui sont en accord. Dites en accord.
En accord.
Et j'aime beaucoup ce passage, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». En d'autres termes, nous gardons autre chose, non? Il dit « Plus que tout ce que tu gardes », ça c'est une autre traduction en anglais, « Garde d'abord ta manière de penser ». Pourquoi? Vous gardez votre maison. C'est pour ça qu'on ferme nos portes, n'est-ce pas? Et il y a des individus curieux qui parfois viennent chez moi et passent la nuit et laissent ma porte ouverte. Je n'ai ciblé personne. J'ai entendu quelqu'un ricaner à côté. Et laissent ma porte ouverte. Et le lendemain, je me dis, quand même, on garde nos maisons. On ferme nos portes, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'on se protège physiquement et on protège nos biens. On protège nos biens. Et au travail, par exemple, si vous travaillez dans un endroit, vous savez, les Américains, ils ont ce style, open space, comme on dit en bon français, open space. Vous travaillez dans un open space. Là, je ne traduis pas, tout le monde sait ce que c'est un open space. À peine me regarder comme ça en attendant la traduction. Vous travaillez dans un open space. Et vous avez votre espace à vous, n'est-ce pas? Et souvent, ils ont ces espèces de cloisons pour délimiter leur espace. Et vous gardez votre espace. Et quand vous arrivez, vous voyez quelqu'un. Tu fais quoi ici, Pierre? Il a violé votre intimité, c'est votre espace. Et vous allez protéger votre espace de l'agression extérieure, le collègue qui vient fumer dans votre espace. Et vous lui faites savoir que c'est inacceptable. Et vous gardez aussi votre espace de l'agression intérieure, du désordre interne, sauf à quelques exceptions près. Vous allez ranger votre bureau comme il faut pour pouvoir trouver le dossier, comme votre patron va dire, le dossier. Désolé, il est sous une pile de 20 dossiers, je ne sais pas où il est. Vous prenez la porte le lendemain. Donc, vos dossiers sont bien classés. Vous gardez votre espace de tout ce qui est désordre interne et agression externe. Vrai ou faux? Et vous arrivez, il manque un stylo. Vous avez 50, mais il manque un, vous le voyez tout de suite. Qui est venu ici? Comment tu sais que quelqu'un est venu? Parce que vous comprenez, Flo est venue discrètement. Elle a pris un stylo, elle a tout laissé en ordre. Mais vous gardez tellement bien que vous savez qu'il manque un stylo. Un stylo rouge dans une pile de stylos rouges. Parce qu'on garde ce qui est à nous. On garde. Quand je regarde ma bibliothèque, s'il manque un livre, je le vois. Qui a pris un bouquin ici? Et mon regard, je n'avais jamais vu ma bibliothèque, donc vous ne comprenez pas, mais il y a beaucoup de livres. Mais il y a un livre qui manque, et un livre qui manque, parce que je garde. Et la parole de Dieu nous dit, nous gardons bien de choses, mais ce que nous devons garder prioritairement, c'est nos pensées. Les garder de l'agression externe et les garder du désordre interne. L'importance de nos pensées. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 15. J'ai failli dire quelque chose de très important. Tout ce que Jésus a dit est très important. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 15. Notez la référence, verset 18. Parce que les gens venaient, il y avait toute une conflit sur ce qui est pur, ce qui n'est pas pur, ce qui pollue, ce qui ne pollue pas par rapport à ce que l'on mange, le fait qu'on mange avec des mains non lavées, etc. Et Jésus a dit ceci, ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Non, nous sommes souillés, non pas parce que j'ai mangé ça. Ben évidemment, si vous mangez quelque chose qui est pourri, c'est autre chose. Mais simplement à cause de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il dit, au verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Jésus est en train de nous dire que les mauvaises pensées sont une souillure. Souvent, nous pensons que les mauvaises paroles sont une souillure. Mais pas les pensées, parce que de toute façon, personne ne sait que je suis en train de penser ça. Vous plaisantez? Dieu le sait, le diable le sait. C'est peut-être lui qui vous a introduit la pensée. Et il a vu que vous êtes arrêté dessus et que vous l'avez épousé. Les mauvaises pensées, les meurtres. Attention, Jésus nous dit que les meurtres viennent de l'intérieur. En autre terme, personne ne commettra un meurtre s'il n'avait pas pensé commettre un meurtre. C'est pour ça d'ailleurs que dans la loi, il y a une différence entre meurtre et homicide. Homicide involontaire. Parce que vous pouvez très bien renverser quelque chose, ça tombe sur la tête de quelqu'un et la personne meurt. Mais un meurtre, c'est prémédité. Et pour que ça se produise, ça s'est déjà produit dans le cœur. Les adultères. C'est pour ça qu'on dit que les gens ne tombent pas dans le péché. Ils entrent dans le péché. Tomber, franchement. Tu es capable de voir un garçon que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais pensé du tout à quoi, que tu as toujours la sainteté parfaite et absolue, et tu le vois et tu le suis et c'est fini? Non! Il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'abord. Il s'est passé des pensées, des fantasmes, des imaginations sur lesquelles on s'est attardé, parfois même des jalousies. On peut regarder pourquoi elle est mariée, pas moi. Elle n'est pas plus jolie que moi, hein. Pourquoi ceci, pourquoi cela? De toute façon, moi, je ne pense pas que je vais y attendre parce que moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, parce que moi, de toute façon, Dieu va faire. Hein. On va se marier, Dieu va pardonner. Tu vois. Et on a médité tout ça avant. Et quand la chose se présente, la résistance n'y est plus. Jésus dit que c'est à l'intérêt que ça. Les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je ne me réveille pas tout d'un coup et commencer à dire du mal de ma petite lituanienne ici présente. Il faut déjà que j'ai pensé du mal d'elle et que j'ai pensé au point où ça a pris de la place en moi et le dire devient inévitable. Parce que ce que vous pensez longuement va finir par sortir de votre bouche parce que ça va vous obséder. Ça va vous obséder et vous n'allez pas avoir du repos tant que vous ne le dites pas. Et parfois, les gens disent des choses, non, ce n'est pas ce que je pense. Mais bien sûr que c'est ce que tu penses. Mais tu ne pensais pas le dire. C'est important pour nous de comprendre. Jésus nous dit que cela vient de l'intérieur. Cela vient, et c'est ça qui nous souille. C'est la souillure. En d'autres termes, nous ne sommes pas censés vivre selon la vanité de nos pensées. Les mauvaises pensées sont, écoutez bien, un péché. Et parce que nous ne croyons pas que les mauvaises pensées sont un péché, nous nous laissons aller. Non seulement les mauvaises pensées sont un péché, mais elles ont un impact très négatif sur nous. Très, très négatif. Faites l'expérience de vous asseoir et commencer à broyer du noir. Juste comme ça, vous êtes heureux, après vous commencez à penser à tous les gens qui ne vous aiment pas, tous ceux qui vous ont fait du mal. Comment vous allez vous venger? Et petit à petit, ça va s'accumuler. Quand vous allez vous lever de là, vous aurez besoin d'un calmant. Et quand vous allez voir une de ces personnes, vous allez avoir envie de l'étrangler. Mais si vous vous asseyez et que vous commencez à méditer sur tout ce que Dieu a fait pour vous, à quel point votre vie a été changée par rapport à ce que vous étiez auparavant, toutes les bonnes choses que Dieu a déversées dans votre vie. Vous avez commencé en étant fâché, énervé par rapport à quelque chose, mais vous asseyez et vous commencez à penser à l'amour de Jésus pour vous, à la miséricorde de Dieu, à la bonté des frères et sœurs. Même la sœur Ori qui vous avait énervée, vous pensez à un autre moment où elle était tellement gentille avec vous. Et comment elle s'est donné la peine. Et tout d'un coup, vous commencez à la voir différemment. Vous vous levez de là, vous l'appelez. Oh, je vais juste te dire que je t'aime. Oh, ok, moi aussi je t'aime. Nos pensées dirigent nos vies. Nos pensées dirigent nos vies. Et Jésus a dit quelque chose que nous devons méditer longuement. Et il a commencé à expliquer que sous la loi, il est dit ceci, mais moi, je vous dis ceci. Il a dit que sous la loi, n'est-ce pas, il a indiqué que vous ne deviez pas commettre l'adultère. Mais que celui qui regarde une femme dans son cœur pour la convoiter a déjà commis l'adultère. En d'autres termes, les pensées d'adultère, c'est de l'adultère. Je ne parle pas de suggestion. Je parle de pensée. Les suggestions, c'est autre chose. Le diable a le pouvoir de la suggestion. Il va venir vous suggérer. Je me souviens, j'écoutais un serviteur de Dieu une fois qui commençait à parler de la manière dont le diable attaque et qui commençait à parler de lui-même du fait que le diable vient te dire, mais celle que tu as n'est pas la bonne. Je suis son épouse. S'il peut le dire un serviteur de Dieu, il peut vous le dire à vous. Non, elle, c'est pas la bonne. Tu aurais dû attendre. Tu vois la sœur qui est là, elle aurait fait une très bonne épouse. Elle est spirituelle, elle est toujours là, ta femme, pour la pousser, pour qu'elle prie, bonjour. Hein. Là, j'extrapole, elle n'a pas dit tout ça. Mais vous connaissez le diable, il ne s'arrête pas pour dire celle que tu as n'est pas la bonne, il ajoute encore. Et c'est pour ça que vous voyez de temps en temps, vous entendez dire qu'il y a un serviteur de Dieu qui est tombé. Oui, on est tous tombés, t'es d'accord. Parce qu'il y a une pensée qui est venue pour dire ton épouse, elle n'est même pas stylée. Aujourd'hui, un serviteur est là, son épouse est à côté. Quand même. Vous voyez toutes ces photos que l'on voit de tous ces gens qui sont côte à côte. Ça, ils sont beaux comme notre couple ici. Et ça donne une bonne, c'est une bonne prestance. Et ça fait en sorte que les gens viennent dans nos églises parce qu'on est beau. Quant à elle, avec ses longues robes, les enfoulards, si c'était la sœur Justine. Chacun de nous a un domaine où il doit travailler ses pensées. Et vaincre dans vos pensées va vous permettre de passer à l'étape supérieure de ce que Dieu veut faire pour vous. Alors, les pensées ne sont pas simplement des pensées. Désolé, Jésus a parlé de mauvaises pensées, d'adultère, d'impudicité, de vol. Si vous regardez de l'argent sur la table, j'en parle parce que j'avais de l'argent sur la table, hier on est allé au supermarché, et je demandais à la dame grecque ici présente si elle ne m'avait pas volé. Maintenant, je peux lui poser la question de savoir si elle ne m'avait pas volé, parce que je sais qu'elle ne vole pas. Si elle volait, je ne lui demanderais pas parce qu'elle serait vexée. Donc, pour me prouver qu'elle ne m'avait pas volé, elle a pris mon argent, elle est venue me mettre sur mon bureau, je suis arrivée, je dis, ah, mais je n'ai pas compté. Hein. On ne sait jamais. Mais on ne vole pas. Donc, elle ne va pas venir. Je laisse traîner de l'argent sur ma table, parfois beaucoup d'argent, parce que je sais que les gens qui viennent chez moi ne volent pas. N'est-ce pas? C'est difficile pour eux d'arriver et de dire, hein, tiens. Non, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de méditer le vol. Mais si vous avez l'habitude de méditer le vol, vous aurez du mal à résister. Et vous allez finalement dire que c'est la faute de pasteur, elle devrait faire attention avec son argent. Elle tente les gens. C'est de la tentation, c'est pas sérieux. C'est franchement pas sérieux. Comment ça mettre de l'argent comme ça sur une table? Qui met de l'argent comme ça sur une table? C'est sa faute. Elle n'a qu'à garder son argent dans son porte-monnaie. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Pardonne-lui, parce que ce qu'elle fait n'est pas bien. C'est pas bien. Chacun a des faiblesses. Elle devrait savoir qu'il y a des gens qui ont des faiblesses ici. C'est pas la peine d'inviter des gens chez elle et de mettre de l'argent sur la table. 50 euros par ci, 20 euros par là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un manque de sainteté et un manque de considération pour les gens. Donc, en fait, je prends tout. Où est le problème? Elle peut pas m'accuser. Non. De toute façon, ce n'est pas pour voler, c'est pour lui apprendre. C'est une bonne leçon qu'elle va apprendre. Et quand tu vas me demander, je vais la regarder parce que je suis soupçonnée de vol. Elle va aller se repentir. Donc quand on est passé, on a quand même un peu de sagesse. On ne va pas tenter les gens à mettre de l'argent sur la table. Alors, pour la plupart d'entre nous, et pour tous, j'espère, ça, on voit tout de suite à quel point c'est ridicule. Dans d'autres domaines dans nos vies, nous avons exactement cette attitude. Et ce sont des choses qui, si les pensées étaient des pensées isolées, ce serait une chose. Mais à force de penser certaines choses, elles deviennent des forteresses. Elles deviennent un schéma. Nous avons tous un schéma de pensée. Il y a du bon et du mauvais dans nos schémas de pensée. D'accord? Cela devient un schéma de pensée. Et le schéma de pensée que je viens de décrire, c'est le schéma de pensée de quelqu'un qui a une mentalité de victime. Quel que soit ce qui se passe, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Je peux faire la pire chose qui soit, c'est parce qu'ils n'ont pas été gentils avec moi. C'est parce qu'ils se sont mal comportés. Non, je suis arrivée, quelqu'un m'a dit bonjour, je l'ai giflé. Mais pourquoi il m'a dit bonjour comme ça? Il devait savoir que les gens ont des problèmes. Oui, on m'a regardé de façon trop appuyée quand on demandait les offrandes. Parce qu'on a regardé, je suis sûre que pasteur est allé regarder l'échec, elle a vu que ça fait 2 mois que je ne donne pas ma dîme. Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Franchement, dans cette église, ah non, vraiment, Seigneur, ta grâce sur eux. Parce que vraiment, ces gens ici méprisaient les gens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, Seigneur, vraiment, je compte sur toi. Pendant que je le vole, moi, je compte sur lui. Une mentalité de victime. Il y a des schémas de pensée. Il y a des gens qui ont une mentalité de victime. Tout le monde a toujours tort. Pauvre d'eux. Ils vous volent, mais c'est de votre faute. Ils commettent l'adultère, mais c'est de votre faute. C'est parce que le pasteur ne m'a pas appelé avant que je n'aille chez lui que je suis tombée. C'est la faute de mon mari. S'il avait été plus gentil avec moi, je n'aurais pas été en relation avec tous ses amis. Tous ses amis, quand même. Il y a un moment où on dit stop. Mais quel que soit ce qui se passe, il y a un schéma de pensée qui fait que je ne suis jamais fautive. C'est toujours moi qui souffre. J'ai été méchant et désagréable avec les gens, mais pourquoi ils ne m'ont pas appelé après pour me demander pardon? J'ai insulté Béa à la louange. Pas toi, ma chérie. Oui, mais c'est parce qu'elle aussi, elle devrait savoir que je suis colérique. Un schéma de pensée de victime. Et toutes ces choses nous empêchent de vivre une vie de plénitude et de victoire. Parfois aussi, un schéma de pensée de victime veut dire que où que j'aille, où que je sois, les gens peuvent être gentils avec moi, je vais toujours garder une image négative de ce qui s'est passé. Toujours de ce qui s'est passé. Et quand les gens ont un schéma de pensée de victime, ils deviennent des gens à haute maintenance. Vous comprenez? Un effort de maintenance très élevé. Vous savez, quand vous avez une vieille voiture, l'entretien doit être fait régulièrement. Je priais pour quelqu'un l'autre jour, donc je tairai le nom, t'es dans une nouvelle voiture. Parce que toutes les 3 semaines, je vais voir mon mécanicien. J'exagère un petit peu. Mais quand vous avez une voiture toute neuve, si vous avez un problème avec, vous vous énervez parce que ce n'est pas censé se passer. N'est-ce pas? Et en général, ça ne se passe pas comme ça. Et il y a des gens qui sont comme des voitures neuves, il y a des gens qui sont comme des voitures anciennes. Niveau de maintenance limité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une mentalité de victime, parce que vous pouvez leur dire quelque chose sans que... Oh, on m'a dit que je vais arriver en retard à l'église. Oh, ces jours sont méchants. T'es arrivé à quelle heure? À 11h? Le kit était à quelle heure? À 9h30? Mais pourquoi ils m'ont dit ça? Parce que c'était vrai. Tout est coloré négativement et tout est question de rejet, tout est question d'on ne m'aime pas, on n'est pas gentil avec moi, je fais les pires bêtises, on ne peut pas me reprendre. Et tout ça nous empêche de vivre une vie de plénitude. Des pensées qui deviennent des schémas de pensée. Et bien sûr, ce que Jésus a invoqué, tout ce qui est péché, qui commence déjà à l'intérieur. Les calomnies, par exemple. Ah, j'étais en train de faire l'émission cette semaine et j'ai invoqué la médisance. Et j'ai dit une chose qui est parfaitement, avec laquelle vous êtes certainement d'accord, c'est qu'un des pires péchés dans nos églises, c'est la médisance. N'est-ce pas? Et c'est un péché dont nous nous accommodons bien. Mais ça commence dans la tête. Si je n'ai jamais pensé du mal de Sonia, la première fois que quelqu'un va me dire du mal de Sonia, je dis ah non, c'est une fille extraordinaire. Oui, bon, peut-être que vous avez eu un différent, mais vous vous pardonnez mutuellement, c'est tout. Ok, d'accord, elle t'a giflé. Bon, peut-être qu'elle n'aurait pas dû te gifler, mais tu l'as peut-être pas, on peut chercher. Et instinctivement, je vais essayer de voir du bon. Je ne vais pas tout de suite croire ce qui est mauvais. Enfin, dans la grande majorité d'entre nous, non? Non, ma chérie. Mais dès là où la personne a introduit la pensée dans ma tête, que Sonia est quelqu'un de méchante, je la défends, je dis mais non, et il y a comme une sorte de soupçon qui grandit. Cette pensée reste en moi. Et le jour où Sonia va malencontreusement se mettre en colère, tout de suite la pensée est réveillée. Peut-être que finalement la sœur avait raison. Mais même là, je fais non, mais ça va me revenir. Je vais m'attarder dessus. Et après, je vais me rappeler tout ce que la sœur avait dit la concernant. Je vais rester à penser que moi, parfois, je suis dupe. Hein? Vraiment, j'ai besoin de discernement. Comme ça, Sonia, elle est méchante. Mais avec une fille avec un visage d'ange. Ah! Vraiment, il faut se méfier d'acheter les chrétiens. Les chrétiens, après, c'est vous êtes tous méchants. Je vais extrapoler et décider que finalement, même Justine. Non, mais même la fille qui chante, parce qu'elle aussi, elle avait commencé à... Ta grâce sur cette église. Les gens ont l'air gentils comme ça. Seigneur, bénis-les. Vraiment, bénis-les. En tout cas, moi, je vais faire attention à moi. Je vais aller là-bas parce que... C'est ça, il faut se mettre en colère quand ça... Mais quand même... Après, mais pasteur, parce que... Nos pensées. Et parfois, il y a des pensées qui nous éloignent de ce que Dieu veut faire pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont un schéma de pensée de... où ils ont comme l'impression qu'ils ne sont pas bons à faire grand-chose. Tout est difficile, tout est complexe, tout est compliqué. Vous leur dites, ferme la porte. Je dois fermer la porte? OK. Vraiment? Ah, ça a fermé? Oui, ça ferme d'habitude les portes. Quel que soit ce que vous leur demandez de faire. Dans le temps, quelqu'un devait entrer des données sur Internet et j'ai eu droit à des larmes, à des pleurs. J'ai dit, mais c'est juste un logiciel. Il faut juste aller ouvrir, entrer. Mais ce schéma de pensée qui consiste à voir tout comme étant complexe. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, ah oui, je vais apprendre, je vais apprendre très vite. Je dis, super. Ça, c'est la bonne manière de penser. Quand vous êtes face à une situation, vous regardez, ah non, ça va être trop dur pour moi. Vous avez un mauvais schéma de pensée. Vous avez un mauvais schéma de pensée. Un mauvais schéma de pensée. Et beaucoup de gens passent à côté de leur potentiel et du développement que Dieu veut faire de leur potentiel parce qu'ils sont face à une situation et ils s'avouent déjà vaincus. Nous devons changer notre manière de penser. Changer. Ce que vous êtes, vous ne savez même pas. La capacité qui est en vous, vous n'imaginez même pas. Mais quand vous acceptez de penser différemment, vous serez étonné de ce qui va sortir de vous. Parce que celui qui vous a fait, il vous a créé avec une capacité au-delà de ce que vous pouvez concevoir. L'image que vous avez de vous-même est le fruit de beaucoup de choses, et nous allons en parler dans quelques instants, mais ne correspond pas à la réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous devons évacuer certaines pensées et nous devons abattre certains schémas de pensée. Il y a des gens qui ont un schéma de pensée, j'ai parlé de rejet, et des gens qui ont un schéma de pensée de rébellion. Ils sont résistants à tout. Parce que parfois, il s'est passé des choses dans leur vie, dans leur passé, qui font que c'est la méfiance, c'est la rébellion, parfois c'est l'orgueil et c'est la rébellion. On a vu pendant le temps de prière les différentes causes de rébellion. Parfois c'est l'incrédulité qui conduit à la rébellion. On ne croit pas, on n'a pas la foi, donc on dit non. Et parfois c'est parce qu'on est orgueilleux, moi, on me demande ça, non. Ou la peur, ou je ne sais pas, non. Quelle que soit la raison, la rébellion peut être un schéma qui fait que constamment c'est la résistance à tout. Enfin, je vous ai parlé de mon neveu qui, quand il était petit, c'était, tu lui as dit, vous lui dites quoi que ça? Non. Non. Juste pour le plaisir de dire non. Il était d'accord avec rien. Tu dis, Samson, non. Non. OK, Annie, tu go, non. Et avec une voix ferme, non? Non. Je dis, mais c'est comme ça que les chrétiens devraient être avec le diable. Quand il vient vous introduire une pensée, il fait, non. Mais là, ça, non. Mais la même chose, no! I said, no! Nobody knows en français. Il y a différents schémas de pensée. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il nous dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Vous dites puissantes? Puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En d'autres termes, il y a des raisonnements en nous. Il y a des raisonnements dans le monde qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements en nous qui sont contraires à ce que Dieu veut. Et nous sommes censés ne plus vivre selon la vanité de nos pensées, donc en changement. Et nous renversons les forteresses. Forteresses, forteresses. Et beaucoup de gens pensent que les forteresses, c'est le Mont Saint-Michel. Non, les forteresses, c'est là. Et je suis censée les renverser. Je suis censée abattre tout schéma de pensée qui vient contre moi. Il y a encore un autre schéma de pensée qui est aussi assez courant dans le monde de façon générale et malheureusement aussi dans l'Église. C'est le schéma d'un esprit critique. Et pas dans le sens d'avoir un esprit critique, de pouvoir analyser de façon constructive. C'est ce qu'on appelle en anglais « judgmental ». C'est toujours trouver quelque chose de mauvais à dire sur quelqu'un ou sur une situation. Toujours voir ce qui ne va pas. Et on appelle ça le discernement. Ça s'appelle se constituer juge des frères et juge du monde. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Parlez, agissez, Jacques 2, 12 à 13. Parlez, agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Je répète. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Moi, je veux la miséricorde. Moi, je veux la miséricorde. J'ai appris il y a de longues années de cela à semer la miséricorde. Quand on sème la miséricorde, on moissonne la miséricorde. Glory to God. Le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas lu ce passage, en fait. Je suis épatée par la facilité avec laquelle les gens condamnent les autres. Et pour rien. Pour rien. Mais ça commence dans la tête. Jésus dit dans Matthieu 7, 1 à 5, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » En d'autres termes, ce que tu as fait à l'autre, ta manière de penser de l'autre, c'est comme ça que les gens vont penser de toi. Rien que ça, c'est « wow ». Ah, Sonia, elle est merveilleuse. Ah non, la fille, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Ah oui, elle est merveilleuse. Et Jésus dit ceci, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» J'aime le Seigneur. Il était franc et il est franc. Et j'ai essayé de lui ressembler. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Ils n'ont pas l'habitude d'un pasteur qui est franc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, vous avez jamais pasteur d'une grande église parce que dites la vérité. J'annule ses paroles parce que nous avons beaucoup de gens à gagner au Seigneur. Donc, inévitablement, l'église grandira parce que nous allons gagner des âmes au Seigneur. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui aiment la vérité. Il ne faut pas penser automatiquement que les chrétiens n'aiment pas la vérité. Non, il y a des gens qui aiment la vérité. Je connais des gens qui aiment la vérité. Je connais des gens qui ont dit la vérité depuis des années et qui m'aiment de plus en plus. Alléluia. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Et Jésus aimait. Et Jésus disait vrai. Il disait à ses disciples, mais vous manquez de foi, vous. Et les chrétiens vous connaissent. Ouais, bon, écoute, je suis sûr que tu as la foi. C'est peut-être Dieu. Et là, c'est la faute de Dieu. Toi, tu es quelqu'un de merveilleux, mais c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas son ton, c'est lui. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu n'as pas la foi, travaille ta foi, ça s'acquiert. Glory to God. Il a dit que je n'ai pas la foi, mais il n'a pas menti. Jésus nous dit d'enlever la poutre. Donc, j'ai décidé de ressembler à Jésus, ce qui fait que... quand les gens viennent pour dire, oui, mais Florentine, tu t'es regardée, toi. Est-ce que tu t'es regardée? Sache qu'avant que tu ne vois ce qui ne va pas avec les cheveux de la petite... On a déjà vu 10 choses qui ne vont pas chez toi, mais on t'aime quand même. Il ne faut pas dire ça aux gens, mais il ne fallait pas venir critiquer quelqu'un. Lorsque nous semons la miséricorde, nous moissonnons la miséricorde. Et lorsque les gens vous jugent alors que vous avez un cœur pur à leur égard, Dieu continue à vous bénir. Et à vous remplir. Et à déverser sur vous. Et ils continuent eux, à grincer des dents. Et vous continuez à vous réjouir. Glory to God. Alléluia. C'est important pour nous de changer notre manière de penser, d'évacuer tous ces jugements hâtifs que nous faisons sur les gens. Ça, c'est la nature charnelle. Et la parole de Dieu nous dit de ne plus vivre selon la vanité de nos pensées. Comment pensez-vous que Dieu va vous bénir pour que vous soyez une bénédiction si dans toute votre tête, il n'y a que jugement critique? Non, vous serez toujours limité parce que Dieu sait que vous allez tuer des gens. Vous allez les tuer. Je ne parle pas de vous. Je parle de vous, générique. Elle a dit, vous, elle m'a regardé. Mentalité de victime. En fait, débarrasser de ces fausses mentalités, n'est-ce pas? Pour que nous soyons libres, libres, libres aussi d'accepter la correction sans mourir. N'est-ce pas? Oh! C'est à dire que je suis venue en retard. Ah! Je suis blessée. Oh! Et j'ai toujours trouvé trois amis. Quoi? Ils t'ont dit ça, mais c'est n'importe quoi. Viens dans mon église. On te dit jamais ça. On va te dire que tu es merveilleuse. Même quand tu vas sortir avec un homme qui n'est pas marié, qui est marié, tu es merveilleuse. Tu vois la gloire de l'Éternel qui est sur toi. Nous aimons la vérité. Parce que quand nous aimons la vérité, nous sommes en mesure d'être transformés. Et ce que nous voulons, c'est d'être transformés. Oh, God is so good. Des schémas de pensée. Pourquoi on est en train d'évoquer tous ces différents schémas de pensée, ces forteresses? Parce que nous sommes censés les renverser. Il faut les identifier. Et comme je vous ai dit, tout le monde a ri quand j'ai parlé du vol, parce que vous ne volez pas. Mais vous avez peut-être une mentalité de victime. Vous avez peut-être un esprit critique. Moi, je ne peux pas savoir, parce que vous n'êtes pas venu me dire des choses, mais peut-être que vous les pensez. Alléluia! Et ça va disparaître.
Amen.
Glory to God. Alléluia. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse pour que nous puissions réellement vivre la vie que Dieu a pour nous. Faire resplendir la gloire de Jésus. Ah, parfois nous avons... Je vais vous inviter à lire Romains 14. Il y a beaucoup de choses dans Romains 14 parce que je viens insister un petit peu sur cela et on va probablement s'arrêter là. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais on va continuer par la suite. Est-ce que ce message vous bénit?
Amen.
Amen. Et vous n'avez pas de chemin de pensée de mensonge, donc je vous crois. Je ne veux pas qu'on aille trop vite. Je veux qu'on puisse développer et qu'on puisse vraiment travailler ces choses parce que nous serons révolutionnés.
Amen.
Alléluia. Et il y a des choses dont nous devons nous débarrasser et nous pensons que c'est notre identité. Mais moi, je suis comme ça, je me sens facilement rejetée. Mais ce n'est pas normal. Vu ce que tu es en Christ, vu le grand amour que Jésus a déversé envers toi, vu la valeur que tu as aux yeux de Jésus.
Amen.
Ah. Vous savez, ici, les questions de nourriture, et dans l'époque ancienne, il y avait beaucoup de discussions, de querelles sur on mange ça, on mange pas ça, ceci et cela. Bon. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains pour leur dire, écoutez, il y a des choses qui n'ont pas d'importance capitale. Donc, soyez agréables les uns envers les autres. D'accord? Ne discutez pas des opinions. Maintenant, au verset 2, il y en a un qui pense qu'il peut tout manger, ok. L'autre qui est faible, qui ne mange que des légumes, ok. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Au verset 3, au verset 4, ce passage m'a beaucoup parlé parce que j'ai entendu un serviteur de Dieu parler là-dessus, parce que Dieu l'avait repris sur ce passage. Et moi, ça m'a marqué. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qui es-tu, toi, qui juge le serviteur d'autrui? Et il avait jugé dans une situation, c'était franchement pas nécessaire. Il a commencé à juger. Et le Seigneur l'a repris, il lui a donné ce verset. Mais tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Tu es qui? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de reprendre les gens quand vous êtes en autorité et que Dieu vous et que quelqu'un fait quelque chose. C'est votre devoir de les reprendre. C'est le devoir des leaders de conduire le peuple et de reprendre les gens quand ils ont quelque chose qui ne va pas bien. Ce n'est pas de ça que l'on est en train de parler. C'est le fait de porter des jugements hâtifs sur les gens pour un oui, pour un non, pour rien. Juste parce que ça ne me convient pas. Moi, ce n'est pas mon style. Oui, mais on n'est pas ici pour toi. Heureusement. Ce passage... Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? Nous devons garder ces choses à cœur. Parce que le jugement est quelque chose de très courant dans l'Église de façon générale. Les gens se sentent très libres pour penser n'importe quoi sur les autres et dire n'importe quoi sur les autres. Nous allons parler ensuite de la parole. C'est penser, dire, faire. Des choses que nous disons. Mais d'abord sur les choses que nous pensons, parce que ce que nous disons, c'est le résultat de ce que nous avons pensé. Et si nous arrivons à assainir nos pensées, nous allons assainir nos vies. Nous allons nous positionner vraiment pour des vies de victoire et de joie. Alléluia. Il y a parfois, j'ai encore évoqué un autre schéma de pensée, c'est celui de la crainte. 2 Timothée 1, 7 nous dit ceci, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce même mot « timidité » veut aussi dire « crainte et peur », n'est-ce pas? En d'autres termes, un enfant de Dieu n'est pas censé vivre dans la peur, dans la crainte, dans la timidité, ne pas oser affronter des choses, ne pas oser affronter des gens, ne pas oser dire, ne pas oser faire, être au travail, ne pas oser parler. Quand vous avez quelque chose que vous devez faire, vous n'osez pas aller là-bas discuter avec les gens, où il y a quelque chose qui va arriver, vous êtes déjà dans la crainte, oh, je ne sais pas ce qui va passer, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et vous savez que la peur provoque la maladie. En fait, toutes ces pensées, on va parler un peu plus tard de l'impact des mauvaises pensées sur nos vies. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés de l'impact des mauvaises pensées sur vous. Elles font la guerre aux promesses de Dieu. Elles sont en opposition à la manifestation des promesses de Dieu. Vous étiez déjà arrivé d'avoir votre tête pleine de pensées mauvaises et ensuite d'aller prier? Vous avez prié avec allégresse?
Non.
Vous avez prié avec facilité?
Non.
Pourquoi? À cause de vos mauvaises pensées. Vous êtes là, mais Seigneur! Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est vous. C'est vous. Ces choses sont vraiment très importantes. Et les pensées de peur sont les pensées qui montrent que nous n'avons pas encore compris qui nous sommes en Christ. Nous n'avons pas encore compris que nous sommes les premiers et non les derniers. Que nous sommes en avant et non pas en arrière. Nous n'avons pas compris que l'Éternel marche devant nous, n'est-ce pas? Et qui nous entoure, telle une montagne entoure Jérusalem, telle l'Éternel entoure son peuple. Nous n'avons pas compris que les anges de Dieu sont là pour nous servir, pour faire qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Que lorsque nous, par la foi, nous déclarons la parole et la pensée de Dieu, il y a des anges qui exécutent. Nous n'avons pas compris que nous ne sommes pas en train de vaguer seuls sur la planète en essayant de survivre tant bien que mal. Ça, c'est encore la mentalité de beaucoup de chrétiens. Mais que toutes les ressources du ciel sont à notre disposition. Et donc, les gens ont peur. Ont peur du lendemain. Ont peur de manquer. Ont peur de ceci. Or, la parole dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et donc, j'ai peur de manquer. Et je vais faire des compromis au lieu de dire non, parce que j'ai peur de perdre mon travail et ensuite de manquer. Donc, cette forteresse de peur va m'entraîner très, très loin, en dehors de la volonté de Dieu, dans le compromis, dans le péché, parce que j'ai peur. Tout ça se passe à l'intérieur, je travaille, je me dis, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire ça, ils vont faire ça. Dès que vous vous entendez commencer à avoir des pensées paniquées, stop, stop. Souvent, on a des pensées, on panique, dans les... oui, mais je vais... Et on dit au Seigneur, aide-moi, aide-moi. Non, c'est pas le Seigneur, aide-moi, c'est toi, stop. Il dit, mais je comprends, j'ai prié, et Dieu, non. Après tout, quand vous jeûnez pendant une semaine et que vous priez tous les soirs, vous êtes là, yeah! Vrai ou faux? Qu'est-ce qui a changé? C'est Dieu qui a changé? C'est vous qui avez changé. C'est vous qui avez changé. Quand vous êtes là paniqué, c'est Dieu qui a changé? C'est vous qui avez changé. Et c'est vous qui changez de nouveau pour que les choses se mettent en ordre. C'est vous qui décidez, stop aux pensées de panique et de peur. La parole de Dieu dit... Que je suis en avant, je ne serai jamais en arrière. Je refuse les pensées de panique et de peur. Éloignez-vous de moi. Voici comment ça va se passer. Mais au lieu de faire ça, là, on fait des prières paniquées. Oh Seigneur, je t'ai mon père. Fais quelque chose. Oh ta grâce. Ça va, je t'arrête. Oh, Amen. Comme si le fait de redresser la veste va changer quelque chose à l'affaire. Amen. Merci Seigneur. Les étudiants, quand ils se comportent mal à l'école, au lieu de bien se comporter, ouais, le principal. Alors, monsieur? Monsieur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En réalité, c'est ce qui devrait être manifesté en nous et c'est ce qui devrait remplir nos pensées, la force, l'amour et la sagesse. Dites la force, l'amour, la sagesse. Toutes mes pensées doivent être orientées dans le sens de la force, dans le sens de l'amour, dans le sens de la sagesse, parce que c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Et c'est cela me dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Ça va continuer la semaine prochaine sur les d'autres schémas de pensée. D'où viennent ces schémas de pensée? Et il y a deux choses principales qui semblent nourrir beaucoup de ces schémas de pensée. Et nous allons les voir la semaine prochaine. Lorsque nous parlons de renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, nous parlons des forteresses, nous parlons de schémas d'incrédulité. Et vous allez dire, oui, mais nous, on est nouveau, là, on a cru en Jésus. Vous croyez en Jésus, mais est-ce que vous croyez Jésus? Vous croyez en lui, mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez ce qu'il dit? Ou est-ce que vous opposez une résistance à ce qu'il dit? Ou est-ce que vous avez un raisonnement qui va à l'encontre de ce qu'il dit? Est-ce que lorsque vous voyez une promesse de la parole de Dieu, vous dites « Amen, wow, c'est comme ça !» Vous dites « Oui, mais bon, moi, par exemple, compte tenu de mon niveau d'éducation, je ne peux pas m'attendre à ce que je puisse avoir ce genre de bénédiction, parce que, bon, regarde, elle a fait bac plus 5, c'est normal, parfaitement normal, qu'elle ait un bon poste, qu'elle ait un bon salaire, mais moi... Non, mais tu sais, la parole de Dieu promet que par ailleurs, si tu écoutes les signes, va te dire ce que tu dois faire, dans quel sens tu dois aller. Ouais, mais tu sais, je dis, il ne faut pas se leurrer. Hein, je dis, pensée d'incrédulité. Un schéma d'incrédulité. Ouais. Non, Dieu guérit. Oh, non. Je sais que Dieu guérit. Ah oh, non, là, je le crois. Mais bon, je pense que quand même, je veux dire, j'ai des maux de tête depuis longtemps. J'ai un petit doigt qui est tordu, là. Mais je pense que ça, c'est aussi Dieu qui me montre qu'il faut compter sur lui, quoi, et pas sur mon doigt. Hein? Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on peut même se met des idoles. Et même son doigt peut devenir son idole. N'est-ce pas? Et là, je vois que, bon, si j'ai mon doigt tordu comme ça, c'est vraiment Dieu qui veut se glorifier. Et pourquoi je transforme pas mon doigt en idole? N'est-ce pas? Schéma d'incrédulité. Quand nous commençons à laisser Dieu briser les schémas dans nos vies, nous sommes étonnés de ce qu'il fait. Je parlais tout à l'heure de schéma de rébellion. La rébellion peut être la rébellion contre Dieu ou la rébellion contre les autorités établies. Mais il y a un homme qui a raconté une histoire de soumission qui m'a beaucoup béni. Il a décidé de se soumettre au Seigneur. Il vivait une situation très difficile et Dieu l'avait repris par rapport à certaines choses qu'il ne faisait pas selon la parole de Dieu et en manque d'obéissance, une certaine rébellion de sa part. Donc, il avait commencé à mettre de l'ordre dans sa vie, à s'organiser, à faire ce qu'il fallait, à donner sa dîme, à être sérieux avec Dieu, et ainsi de suite. Mais quand il a commencé à faire ces choses, sa situation s'est empirée. Mais vraiment, c'est empiré. Au point où il est arrivé même à ne plus avoir de voiture, à devoir faire de longues distances à pied, parce que même pour le transport, ce n'était pas évident. Et un jour, il devait aller voir sa femme et il faisait les 3 kilomètres à pied, non, 3 miles dans 5 kilomètres à peu près à pied. Et il a entendu le Seigneur lui parler. Le Seigneur lui a dit d'entrer dans un magasin de fleurs, chez un fleuriste, pour acheter des fleurs pour sa femme. Bon, la première chose, c'est même reconnaître que Dieu s'intéresse aux fleurs pour sa femme. La deuxième chose, c'est dire que, bon, s'il fait ce trajet à pied, c'est qu'il n'a pas d'argent. Et donc, maintenant, prendre de peu d'argent et aller acheter des fleurs, bon, il aime sa femme, donc il veut lui faire plaisir. Donc, il faut aimer sa femme. On sera étonné de la bénédiction qui en ressort. Donc, il aime sa femme, donc il dit, OK, je vais faire ce que tu dis, Seigneur. Il entre chez le fleuriste pour aller acheter des fleurs pour sa femme. Sauf problème, il demande la vitrine, il devait y avoir des fleurs, il n'y avait pas de fleurs. Donc, il demande, bon, je veux des roses, on n'a pas de roses. Je veux un autre type de fleurs, on n'a pas. Vous n'avez pas de fleurs. Hein. Et non, donc il voit une. Il décide finalement de lui prendre une peluche. Et il prend, donc il va à la caisse. Il arrive à la caisse, chose étonnante. L'homme lui demande, ah, vous faites quoi dans la vie? Quand il demande ça, on n'a pas l'habitude de vous demander ce que vous faites dans la vie quand vous allez à la boulangerie, n'est-ce pas? Bon. Vous faites quoi dans la vie? Donc, il lui dit, je suis conseiller en investissement. Et il venait de commencer 2 semaines auparavant. Il n'avait pas le moindre client. Ah, mais c'est intéressant que vous dites ça, parce que lui venait de quitter un travail où il a été payé une somme assez importante. N'est-ce pas? Et là, il voulait investir son argent. Je dis, peut-être que vous allez m'aider à investir. Ah oui, bien sûr. Il n'a pas dit, je viens de commencer il y a 2 semaines. Ça n'a pas nécessairement inspiré confiance. Il a dit, oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et non seulement il est venu avec 2 autres de ses amis qui ont ensuite emmené d'autres personnes. Et c'est comme ça que son entreprise a commencé et que Dieu l'a prospéré. C'est important pour nous de nous débarrasser des schémas de rébellion. Parce qu'on ne sait pas à quelle instruction on va obéir, qui va être la porte ouverte, qui va nous faire entrer là où Dieu veut que nous entrions. Ce sont juste quelques indications ici pour que nous comprenions ce que nous disons lorsque nous disons que nos schémas de pensée peuvent ou inviter l'action de Dieu ou bloquer l'action de Dieu dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Un par un, je vous ai parlé d'Apollos, je vous ai parlé aussi de Timothée, je vous ai aussi parlé de Barnabas. Il y a des pas d'obéissance qui n'auraient pas pu être possibles s'ils avaient un schéma de pensée de rébellion ou même de rejet, n'est-ce pas? Parce que quand on a des sentiments de rejet ou même une mentalité de victime, on n'est pas enclin à suivre, à obéir. On fait ceci, on ne va pas le faire. On va toujours, oui, pourquoi c'est moi qui me demande ça? Pourquoi on ne m'a pas demandé moi de faire l'autre? Pourquoi on me demande moi ça? Et on ne fait pas, et on est là, et on continue. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et continuent au même endroit, n'avancent pas, ne progressent pas. Pas de victoire dans leur vie, pas de joie, pas de vie abondante et débordante. Ils disent, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su obéir à une instruction. On n'a pas su faire quelque chose qu'on était censé faire quand on était censé le faire, parce qu'on a laissé les forteresses mentales nous limiter. Victime, critique, rébellion, quelle qu'elle soit, il y a une forteresse. S'il y a une forteresse, elle va vous limiter. Elle va vous limiter parce que ce qui va vous conduire dans les choses merveilleuses, diverses et variées que Dieu a pour votre vie, n'en a pas nécessairement l'air sur le champ. Vous comprenez? Et c'est juste quelque chose que vous allez faire, quelque chose qu'on va vous dire que vous allez écouter, quelque chose que vous allez suivre. Une petite instruction que vous allez dire, un verset qu'on vous dit de méditer, que vous allez méditer, et les choses vont s'ouvrir, et l'entendement va venir. Un jeûne qu'on va vous dire de faire, que vous allez faire, et là, il se passe quelque chose. Un enseignement qu'on vous demande d'écouter, que vous allez écouter, bouf, et Dieu ouvre. Et vous saisissez ce que vous n'aviez pas saisi auparavant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de se débarrasser de ces schémas qui nous poussent à passer à côté de toutes les portes qui sont ouvertes devant vous. J'ai quelques années de ministère et je vois les gens, et aussi parce que je fonctionne dans le ministère du prophète, je vois où Dieu veut les amener. Et je vois aussi parfois des étapes qui sont devant eux. Et je vois quand ils bifurquent, qu'il y a une porte. Ils sont censés entrer par là et il y a un mot, un conseil, une instruction, quelque chose. Et à cause des forteresses mentales, au lieu d'entrer par la porte et de passer à l'étape suivante, ils bifurquent. Et gardent la mentalité qui les empêche de passer de l'autre côté. Ils bifurquent, et quand ils bifurquent, ils se trouvent dans un endroit où il n'y a pas d'issue, et là, ils commencent à se plaindre. Là, ils commencent à respecter, je ne comprends pas pourquoi. Et là, vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu rarement va envoyer un ange s'asseoir avec vous et vous donner toute votre existence sur un plateau. Mais la parole de Dieu nous dit de ne plus marcher selon la vanité de nos pensées, mais d'apprendre à nous méfier même. Nous devons nous méfier parfois de nos pensées. Et les gens ne se méfient pas assez de leurs pensées. Ils affirment, oui, moi je pense que je pense. Mais moi je dis ça, c'est je pense que je... Parce que moi je pense que... Oui, mais c'est... Moi je pense que... Oui, mais je pense que... Tu te savais à quel point tes pensées. Et commencer à adopter les pensées de Dieu. Nous allons voir la semaine prochaine quelques autres schémas. Pourquoi? Parce que oh, Dieu a de bonnes choses. Dites à vous, Dieu a de bonnes choses pour ta vie. Mais l'entendement est nécessaire. L'entendement est nécessaire. Une mentalité qui correspond à la pensée du Christ est nécessaire. Et nous allons commencer à identifier des choses que nous, qui nous parlent pour dire, « Seigneur, je pense que là, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. » Ça, ce n'est pas ma personnalité. Ça, c'est une personnalité qui sent le soufre. Ce n'est pas la mienne. Je renonce à ça. Parce que moi, je veux avoir la pensée de Christ. Où rien ne bloque, où rien ne me fait bifurquer, où rien ne m'empêche d'aller tout droit dans ce que Dieu a pour moi et de manifester sur terre la grandeur de mon Dieu. Alléluia! Est-ce que c'est votre prière ce matin? Remercions le Seigneur.